Des fracas, des sifflements de balles, des corps qui tombent et si peu de certitude. Il espérait que la jeunesse qu'il avait eue à Leipzig s'interposerait entre lui et les traces laissées par le passage de la guerre. Mais en lui, tout se taisait. Hier, quand il était un gosse, comme aujourd'hui, où il était sans âge. Daniel Arsan met ici un passé tragique en récit pour que la fiction en fasse enfin quelque chose. La mémoire gay ensevelie, celle des persécutions, remonte à la surface sous les traits de personnages de romans. La littérature et le théâtre gay se nourrissent de leurs héritages douloureux dans une tentative d'exorcisme poétique. Des questions boudées par l'histoire entrent en littérature et la fiction s'attelle à en panser les plaies. Dans une deuxième partie, Daniel Arsan restera autour de la grande table pour faire son portrait, celui d'un homme qui a eu plusieurs vies littéraires. Il est l'heure de passer à table. En guise d'éveil papille, voici l'éphéméride du jour. Évocation d'un autre 16 août, le 16 août 1895. C'était la naissance de l'écrivain Albert Cohen.
Et voyez-vous, quelquefois, le seul bonheur qui me reste, c'est lorsque celle qui était là tout à l'heure rentrera le soir. Sera de la voir, de voir ses yeux d'étoiles et ses gestes timides, d'entendre sa voix enfantine et de lui dire les quelques mots sacrés, lui dire chaque jour, depuis tant d'années, lui dire chaque jour que ce jour est notre premier jour.
Dire son amour. Aujourd'hui, nous allons parler aussi du silence, des silences, et de ceux que la littérature vient tenter de combler, puisqu'il sera question de la mémoire gay en littérature. Pour en parler, nous accueillons autour de la grande table Daniel Arsan, écrivain et éditeur. Bonjour.
Bonjour.
Pauline Rousseau, chercheuse en études théâtrales et metteuse en scène, spécialiste du théâtre LGBT. Bonjour.
Bonjour.
Et Jérémy Lambert, chercheur à l'université de Louvain et spécialiste de la construction des identités, que nous joindrons par téléphone depuis la Belgique. Alors, est-ce que Daniel Arsan, il a fallu se souvenir pour écrire, ou est-ce que c'est l'entreprise de l'écriture qui a fait remonter les souvenirs ?
Je crois qu'il y a eu les deux. Enfin, je pense que, en tout cas, ce qui concerne mon dernier roman, je crois que c'était quelque chose qui était là depuis presque toujours. Je pense que quand on est homosexuel, peut-être aussi de ma génération, on porte ça, c'est là. Je suis né en 1950, donc c'était pas très loin, hein, la guerre, la fin des camps de concentration. Donc, il y a eu cette mémoire qui a été réactivée par quand j'ai pris conscience que tout pouvait recommencer, que tout était extrêmement fragile, que toute victoire était absolument passagère et que l'enfer pouvait recommencer. Enfin, je pense qu'on arrive à une période quand même, comme je le dis à un moment, où les temps de peste sont possibles.
Il y a eu plusieurs temps de peste et plusieurs remontées mémorielles. Si on reprend, Pauline Rousseau, un peu l'histoire de la mémoire de la communauté gay, c'est étrangement au moment de l'arrivée du sida et de l'hécatombe due au sida que les questions mémorielles antérieures, y compris celles de la déportation, remontent et reviennent dans la fiction.
Tout à fait. C'est relativement... Alors, je ne sais pas à quel point c'est lié. On peut imaginer aussi que ces questions mémorielles reviennent parce que on arrive à la fin des années 70 et donc les débuts des mouvements militants de sortie du placard ont à peu près 10 ans. Mais effectivement, par exemple, Bent, la pièce de Martin Sherman, paraît en 79. C'est un grand succès. Et ça traite directement des homosexuels déportés qui, comme le montre très bien Daniel Arsan dans son ouvrage, ont été très longtemps invisibles. Ce qui est une caractéristique assez générale de la population gay, d'ailleurs, dans son histoire. Donc l'invisibilisation, l'obligation de rester dans le placard. Et le sida va à nouveau activer cette idée qu'il ne faut pas se montrer, qu'il faut rester caché. Pour vivre heureux, restons cachés. Ce qu'on contredit drastiquement les artistes et les mouvements militants du début des années 70, où au contraire il fallait sortir dans la rue, être fier de ce qu'on était. y compris de et du coup remettre sur le devant de la scène cette histoire douloureuse qui avait été passée sous silence.
Daniel Arsan, dans votre dernier ouvrage « Je suis en vie et tu ne m'entends pas », il y a à la fois ce travail de mémoire auquel engage le roman, mais il y a aussi ce travail poétique, on pourrait dire, de dépassement, de sublimation, en tout cas d'essayer de trouver des mots qui permettent de raconter.
Écoutez, c'est là, je crois que c'est d'abord, c'est un livre qui rompt avec mes autres livres, tout au moins dans l'écriture, pas dans les thèmes, mais dans l'écriture. Je sais que ça s'est imposé comme ça. Il a fallu une écriture plus heurtée, plus violente. Oui, elle s'est imposée, ça devait être comme ça. Alors, je ne parle pas d'inspiration ou quoi que ce soit. Je pense qu'aussi que dans l'état où j'étais quand je l'ai écrit, c'est pas que je veux me faire plaindre, mais c'est vrai que c'est la première fois quand même où j'ai écrit un livre dans un état un peu second.
Douloureux, presque.
Oui, et dans cette espèce de conscience de que j'étais, enfin permanente, que j'étais menacée, qu'on était toujours menacé quand on est homo. Et en général, j'écrivais avec beaucoup de de calme mes autres livres, même quand ça touchait des points très très personnels. Là, j'avoue que j'étais submergé quand même au début par le sujet. C'est comme si le combat vraiment commençait. Enfin, j'affrontais quelque chose de nécessaire que je faisais ce que j'avais à faire.
Donc c'est une fiction militante.
Oui. Mais qui n'était pas forcément militante quand je l'ai écrit. Simplement, elle était, elle me possédait vraiment complètement. Enfin, j'ai eu l'impression que je parlais d'une certaine manière de la vie des homos, de la condition des homos, que j'étais à l'intérieur, au cœur même de la chose. D'où mon corps a beaucoup réagi à ça. C'est-à-dire que c'est le premier livre quand même où j'ai pleuré beaucoup en l'écrivant. Mais plus je pleurais et plus j'étais convaincue qu'il fallait que j'avance et je ne reculais pas.
Pauline Rousseau, on a le sentiment que c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre la mémoire véhiculée justement dans ses créations artistiques et aussi le renouvellement artistique pur, c'est-à-dire écrire sur soi, écrire sur sa mémoire, écrire sur les autres.
Oui, c'est toujours un phénomène de va-et-vient, c'est-à-dire qu'effectivement, moi par exemple, à titre personnel, mon oncle est décédé du sida quand j'avais 6 ans, ça a été un traumatisme familial très important, c'était une thématique qui m'a toujours traversée, et quand j'ai continué mes recherches, je me suis toujours beaucoup attachée à cette personne, à cette période, pardon, que d'une certaine manière, j'ai toujours eu des difficultés à comprendre, parce que je crois que pour nous, du coup, donc moi je suis née à la fin des années 80, il fallait redécouvrir cette histoire. Et souvent, en fait, je me suis rendu compte que nous, on avait vraiment été à l'école la génération prévention. On avait les chiffres, on avait les modes de transmission, et tous les ans, au collège, on avait la prévention sida. Mais par contre, on nous avait jamais parlé de cette histoire incarnée, et notamment incarnée par des auteurs.
Dans la littérature, voilà, ce qu'on appelait aussi la littérature, même si c'est un pan de la littérature gay, qu'on appelle la littérature gay, il y a eu tout ce courant de la littérature du sida,
oui, bien
porté
sûr.
Par Eve Guibert, et que vous travaillez au théâtre sous une autre forme.
Oui, tout à fait, parce que effectivement, ce qu'on veut transmettre aussi, c'est cette redécouverte de cette histoire vécue à la fois intimement et politiquement. C'est-à-dire que le lien pour nous dans VIEH, c'est vraiment comment la question intime d'auteur ou de personne gay face à la mort rejoint la question politique, puisqu'en plus, ils sont stigmatisés, mal soignés, systématiquement occultés.
J'allais le voir à l'hôpital, et bon, je me suis mis très vite à écrire. Chaque fois que je rentrais de l'hôpital, bon, c'était des choses intolérables, je me suis mis à les écrire dans mon journal. Et je crois que je l'ai fait, en fait, pour oublier ces choses. Parce que quand j'écris, tout ce que j'écris, une fois que c'est écrit, c'est oublié. Donc ça me permettait d'oublier instantanément les choses au fur et à mesure. Et en même temps, bon, est arrivé un moment, je me suis dit, mais de quel droit je fais ça? il serait furieux, quoi. Je me disais, il serait peiné, il serait. Je fais un acte de traîtrise là en faisant ça, même si je le fais pour l'oublier. Et d'un seul coup, ça a été vraiment comme une révélation, comme quelque chose, comme une vision, quoi. Quelque chose de très très curieux. Je me suis dit, en fait, je suis habilité complètement à écrire ça, parce qu'en fait, c'est mon propre destin. Et c'est ma propre mort que je suis en train de...
En racontant la mort de Foucault, vous racontez votre propre mort.
Jérémy Lambert, en entendant Hervé Guibert parler justement de ce que la nécessité d'écrire et aussi la nécessité que peut-être les écrivains, ceux qui peuvent laisser une trace et les artistes, s'emparent des sujets qui les concernent, peut-être pour les emmener sur la scène artistique.
Oui, oui, tout à fait. Ben c'est vrai qu'on entend un témoignage comme celui de Guibert, là, qu'on entend, c'est extrêmement poignant. Et d'ailleurs, lorsqu'il avait obtenu le prix Goncourt, ben on sait très bien que ça avait eu quand même un certain retentissement, parce qu'on lui avait reproché, on lui avait dit, mais cette question qu'il se pose lui-même, finalement, est-ce que j'ai le droit de faire ça? On lui avait dit, mais est-ce que vous avez vraiment le droit de faire ça? Lui pense que oui, et je crois qu'effectivement c'est une façon de se réapproprier les choses, de se réapproprier les choses pour soi, mais aussi de on disait tout à l'heure de mettre des mots, pouvoir mettre des mots sur des choses, mettre des mots sur des images, mettre des mots sur des événements de vie. Je pense que c'est absolument important.
Et prendre sa place dans la mémoire collective.
Et prendre sa place dans la mémoire collective, effectivement. Et puis pour mettre les choses à distance également, mettre des mots sur quelque chose, c'est aussi entrer dans une dynamique où on essaye de mettre les choses à distance, en tout cas on essaye d'une part de les exprimer et donc de les faire siennes, mais de les faire siennes aussi, enfin de les donner aux autres également, je pense.
Daniel Arsan, est-ce que c'est un débat qu'on aurait aujourd'hui que de dire on se réapproprie, alors la littérature gay se réapproprie une partie de sa mémoire et de son passé douloureux pour nourrir sa littérature? Je ne crois pas, on ne vous l'a pas reproché.
Non. Non, il y a, si, je crois qu'il y a une fois dans une émission où on me l'avait reproché. Mais je crois que c'est un débat maintenant qui est complètement obsolète. C'est fini. Je crois que cette mémoire, elle doit être entretenue, et on arrive quand même à une période où les gens qui avaient 20 ans, 40, ont 95 ans,
ont
disparu. Donc c'est toute une génération, et là je ne parle pas uniquement des gays, je parle aussi de tous ceux qui ont fait la guerre, de tous les déportés, de tous les gens de cette période. Ne vont plus être là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va pas laisser mourir cette mémoire. Donc nous, on est là pour aussi la transmettre, même si on n'a pas vécu les camps, et merci de ne pas les avoir vécus. Mais ce n'est pas une raison. Je crois qu'on porte une mémoire, même c'est une transmission, quoi.
Et à la fin de votre roman, vous revenez justement sur les travaux qui ont pu être faits et ce documentaire paragraphe 175.
Il y avait là une hiérarchie, donc le plus fort au plus faible. Et il est quand même certain que le plus faible dans les camps, et ça tout le monde pourra maintenant le dire, c'était les homosexuels. Ils étaient tout à fait en bas, par terre. Hein. Je n'avais pas 18 ans. Arrêté, torturé, frappé, sans aucune défense, ni procès, ni jugement, il n'y avait rien, j'étais tout seul là.
Daniel Arsan, est-ce que, à l'entente de ce témoignage, vous vous sentez dans la lignée de cette culture gay, de cette littérature gay, de ces écrivains qui s'estiment détenteurs d'une mémoire qu'on doit transmettre, et finalement, c'est écrire sur son propre destin que d'écrire aussi sur le passé?
Ah oui, absolument. Je pense que je suis rentré dans une forme de militantisme qui était là, dans une sorte de, je veux dire, de transmission, et on doit transmettre par tous les moyens, et donc par la littérature, par le théâtre, par le cinéma. On est dans une période où on n'a pas le droit de ne pas rentrer dans le combat, enfin dans une période de combat. Là aussi, il y a une forme de guerre. Je pense qu'on n'oserait plus tellement se regarder si on ne se d'une certaine manière si on ne se mettait pas en colère et si on ne se dressait pas.
À la fin de ce roman, on voit que vous avez fait un travail de recherche important, que vous avez lu les travaux des historiens concernant la déportation des homosexuels. Et donc là, on est à cheval entre, si on essaie de comprendre la démarche littéraire, on est à cheval entre un travail fictionnel et un travail, on pourrait dire, de littérature historique.
Oui, alors il n'y a pas tant de choses que ça. Hein.
Mais il n'y a pas tant de choses que ça qui existent non plus, Daniel Arsan.
Qui existent, oui, c'est ça, oui. Je veux dire, des travaux d'historiens, il n'y en a pas tant que ça. Les confessions, les mémoires des Toiles Roses, il n'y en a pas beaucoup.
Il y a ce documentaire dont vous pourriez peut-être dire un mot, voilà. Paragraphe 175.
Alors, c'est un documentaire qui a été fait, je crois, en 2002. Par Rob Epstein et Jeffrey Friedman. Ils avaient fait un documentaire sur Hollywood qui était absolument génial, qui s'appelait The Celluloid Closet. C'est-à-dire tous les courants homo à travers le cinéma, les phrases à double sens, les gestes à double sens, et c'est par moments c'est très 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 drôle.
Toutes les allusions.
Ouais, il y a par exemple le quand il y a le tournage de Ben Hur, il y a celui qui fait mes salas qui dit au cinéaste, je vais jouer la scène comme une scène de drague, et Charlton Heston est tellement brutasse qu'il ne va même pas se rendre compte. Et c'est vrai, quand on revoit après la scène où ils sont en jupette, c'est vraiment une scène de drague. C'est très drôle. Et ils ont fait après ce film sur les homosexuels, sur les déportés. Alors ça date de 2002. Tous les témoins qui étaient interviewés dans le film ont disparu. Ça a beaucoup compté. Mais pour moi, il y a eu le déclencheur, parce que je voulais faire un livre, mais je le ferai sur un roman sur Rock Hudson. Et là, on m'avait donné un DVD sur quelqu'un qui était très important dans les années 70-80, dans l'engagement militant, qui était Jean Lebitou. Et c'est un DVD, c'est un documentaire qui est assez intéressant. Et puis, à un moment, justement, il évoque la première journée, la première fois où il y a eu la commémoration de la déportation, la journée de la déportation. Et avec les gens qui criaient les PD au four et tout ça. Donc, et d'un seul coup, mais dans la seconde, j'ai su qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dessus. Parce que j'avais été au courant, évidemment, quand ça s'était passé en 88-89, mais je l'avais totalement refoulé.
Il y a eu comme ça ces réactivations à plusieurs moments de l'histoire. C'est au moment où les persécutions reprennent, où les discriminations sont plus fortes, qu'on se rend compte qu'il y a comme un corollaire entre le travail de mémoire d'un côté et ce qu'essaye de faire la littérature de l'autre. C'est la même chose au théâtre, Pauline Rousseau.
Oui, bien sûr, on est là toujours pour... Je pense que tout homosexuel, après, c'est vrai qu'on évolue avec cette histoire aussi. Je pense qu'il y a des moments où on se plonge dans la mémoire, des moments où on est plus dans le présent, des moments où on a envie de la réactiver. Mais en même temps, bien sûr qu'on est traversé par cette histoire de stigmatisation. On peut pas être homosexuel sans être traversé par les déportations dans les camps, le sida. Et même, on oublie souvent que la plupart des lois de Vichy ont été supprimées à la Libération, sauf celles qui concernent les homosexuels. Et
le fameux paragraphe 175, alors, il a perduré jusqu'en 68, voilà. 69.
Voilà, et même en France. Alors en France, l'homosexualité n'était pas considérée comme un crime. Mais en revanche, si vous voulez, vous étiez majeur sexuellement pour les relations hétérosexuelles à 15 ans, alors que c'était 21 pour les relations homosexuelles. Et ça, il faut attendre Mitterrand, il faut attendre 81 pour que ces lois soient abrogées. Donc, si vous voulez...
Il faut peut-être rappeler aussi que les anciens déportés homosexuels ne se signalaient pas comme tels parce qu'ils risquaient d'être emprisonnés.
Oui,
de retour dans leur pays.
Alors, bon, en Allemagne, c'était un peu quand est arrivé, la libération des camps, ils n'ont rien demandé, aucune indemnisation, ni rien. Les jeunes Allemands, les homos, les triangles roses, Ils n'ont rien demandé parce que...
Il y en a un qui a demandé dans le documentaire et qui n'a pas obtenu.
Non, voilà, mais bien après. Autrement, quand vous sortiez du camp, vous retourniez en prison en Allemagne, parce que c'était un crime. Il y avait ça. Il y avait que la famille pouvait être au courant. Où la famille autour était au courant, mais on ne voulait pas réactiver tout ça. Il y avait aussi le fait que quand même, beaucoup d'homosexuels qui ont été dans les camps ont été châtrés. C'est pas évident de l'avouer, de le dire, mais encore aujourd'hui, ce serait pas évident. Et c'était une peur, une honte. Donc ils se sont tués.
Jérémy Lambert, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement de ce passé et comment est-ce que la fiction peut le digérer? Est-ce que c'est toujours une mise à distance du passé?
Alors, je pense que dans la mesure où c'est une mise en mots, oui, il y a une mise à distance, il y a un travail qui est d'une part un travail d'intellection des choses et de compréhension des choses qui s'opèrent. Après, la littérature, évidemment, ce n'est pas qu'un travail de mise en mots simplement. C'est aussi un travail d'émotion, un travail de tonalité littéraire. Et je pense que la littérature fait aussi passer, affectivement, je dirais, cette mémoire. Cette mémoire qui, et ça je pense que c'est important de signaler, n'est pas simplement une mémoire communautaire, mais en fait, plus globalement, touche à une mémoire qui est une mémoire de la société. C'est un élément important aujourd'hui, c'est d'essayer non plus d'ancrer les productions dans ce qu'on pourrait appeler un argot, ce qu'on a pu appeler l'argot au début des années 80, mais d'intégrer ça, d'intégrer cet art, d'intégrer ces productions dans une production plus globale. En fait.
Mais elle vient lui redonner sa place puisqu'on se rend compte quand même que les historiens se sont peu intéressés notamment à la déportation homosexuelle, donc elle vient aussi rééquilibrer ce que l'histoire a un peu oublié.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est-à-dire, elle vient mettre en évidence en fait des oublis, mais en même temps sans, je dirais, uniquement servir de valorisation, de militantisme. C'est pas uniquement du militantisme. C'est, on essaye de faire voir quelque chose qui a été occulté, oui.
Pauline Rousseau, dans le travail qu'a pu faire le théâtre et dans le travail que vous faites au théâtre à travers ce spectacle qui s'appelle VIEH, il y a une volonté de prendre ce passé identitaire et de mélanger aussi les périodes pour finalement s'intéresser à la question existentielle de la persécution et de la perception, puisque on parle de Guibert, on parle des années 80, on parle de la fin des années 80, on mélange un peu tout ça.
Tout à fait. Nous, on a décidé de se concentrer quand même sur la période allant du début des années 80 à l'apparition de la trithérapie en 96. C'est-à-dire qu'on est quand même vraiment sur la première quinzaine d'années, et majoritairement en France et aux États-Unis, parce qu'après, disons que les problématiques se diversifient encore beaucoup. Mais c'est vrai qu'on mélange les époques, et justement, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Daniel Arsan tout à l'heure sur le fait que les homosexuels n'avaient pas forcément demandé des comptes après leur déportation, n'avaient pas forcément demandé d'indemnité. Il y a effectivement cette question que la plupart, qu'on retrouve en fait avec le sida, où les homosexuels se sentaient désignés par la maladie. Il y a un livre de Michael Pollack qui s'appelle Les homosexuels et le sida, où il interviewe plusieurs personnes et il dit que, enfin, il pose la question que feriez-vous si jamais vous appreniez que vous aviez le sida? Et il y a un des intervenants qui répond et qui dit: je me suiciderai. Cela ferait découvrir mon homosexualité. C'est-à-dire que la question du suicide n'est pas liée tout de suite à la mort à venir, mais c'est immédiatement d'être désigné par cette maladie comme un homosexuel. Et je pense que là, par rapport à votre question du début de l'émission, la question effectivement de la déportation et du sida se rejoignent toujours sur le fait d'être montré du doigt, le fait d'être le PD, encore une fois, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis, qui me semble, voilà, très...
Et cette figure, elle est traitée à la fois dans la littérature et vous la traitez au théâtre, et vous traitez la figure de l'ennemi, de celui qui stigmatise. Il y a cette figure de Jean-Marine qu'on retrouve, et on va peut-être écouter quelques archives pour le coup bien réelles.
Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, avec des règles d'hygiène strictes, de façon à ce que, au moins, autant que faire se peut, et en attendant les plusieurs années avant que l'on trouve, oui, si l'on trouve, une parade au virus, au pluriel ou au singulier, car d'ores et déjà, il y en a deux et peut-être trois.
Jean-Marie Le Pen, qu'on entendait en 1987 à l'heure de vérité parler du sida, et vous, cette intervention, Pauline Rousseau, elle vous a inspiré pour faire un personnage?
Tout à fait, Jean-Marie.
Un personnage théâtral.
En fait, on a retranscrit directement le texte de l'émission, qui parle de lui-même, qui n'a pas besoin pour le coup d'être
retravaillé, mis en forme.
Et effectivement, on a créé ce personnage de Jean-Marine. Alors pourquoi Jean-Marine ? Parce que il nous semblait qu'apparaissaient dans ce texte certains des éléments fondamentaux de la rhétorique du Front National aujourd'hui. Et nous en parlions tout à l'heure avec Daniel Arsan, nous sommes tous les deux, assez préoccupés par la période politique que nous vivons, qui nous semble être un retour de la haine et du FN. Et d'une certaine manière, il ne faut pas oublier ce que le FN a dit sur les homosexuels, puisqu'il y a aussi tout un courant homonationaliste qui pourrait se rapprocher de ce parti, et notamment via l'islamophobie. Donc ce personnage de Jean-Marine, pourquoi Jean-Marine ? Donc parce qu'il y a certains éléments du discours, comme l'extrait que vous venez de passer, qui est clairement du discours de Jean-Marie Le Pen, et Marine ne se permettrait jamais, elle est trop intelligente, de dire des choses pareilles. Mais en revanche, il y a aussi beaucoup d'éléments comme l'incapacité des élites politiques à gérer les crises, le trou dans la sécurité sociale qui fait qu'on ne peut pas aider tout le monde, et finalement la stigmatisation de l'autre, l'autre étant pour Jean-Marie le PD, pour Marine ce serait peut-être plutôt les étrangers, mais voilà.
Là c'est le sida qui lui permet de parler d'homosexualité en filigrane, en réalité. On comprend que les deux se mélangent dans son esprit et que l'un est prétexte à parler de l'autre.
En fait, ce qu'il y a, c'est que le sida, c'était malheureusement pas que dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen, et je pense qu'il y a encore certaines personnes qui associent très directement homosexualité et sida. L'homosexuel était vu en fait comme un virus, comme un vice. Et il y a une phrase justement dans votre livre, Daniel Arsan, qui est très juste, c'est qu'il y avait que les PD pour transmettre un vice pareil, une maladie aussi dramatique.
Daniel Arsan, vous, dans vous
voulez dire quelque chose ? Oui, je veux dire que c'est vrai. Je pense que sida, homosexualité sont totalement liés dans plein de gens, mais exactement comme pédophile est lié dans tous les gens, enfin, chez les gens. Homo et pédophile, c'est la même chose, enfin, pour eux. Et un homo est forcément malade ou apporte la mort. Enfin, voilà.
Vous retravaillez cette figure-là des stéréotypes, des persécutions dans votre roman, mais pourtant, l'agresseur n'est jamais complètement stigmatisé, c'est-à-dire que on parle de ce capot qui revient souvent, mais en réalité, l'ennemi, c'est les hommes en général, c'est les chiens, c'est tout ce qui peut servir à faire du mal à l'homme. Il y a une volonté comme ça de distancier la question de la persécution qui pourtant est précise dans votre livre.
Mais la persécution, je pense, à Buchenwald ou dans d'autres camps, j'en pense encore dans des camps qui sont venus après en Europe ou en Asie ou ailleurs. Par rapport à l'homosexuel, de toute façon, peut être agressé, peut être considéré comme rien, comme un sous-homme par les chefs de camp, par les capots et autres, mais aussi par ses propres les propres co-détenus. Il y a les deux,
c'est-à-dire que l'ennemi
est partout parce que le préjugé est absolument partout. On pouvait être déporté et être anti-homo. On pouvait être déporté et être misogyne à mort. On pouvait être et ça c'est quand même une chose qu'il faut accepter. Ça n'enlève rien à l'horreur que tous les déportés ont vécu, hein. Mais il restait, si j'ose dire, il restait malgré tout des hommes avec ce, l'éducation qu'ils avaient eue, avec ce qu'on leur avait enfoncé dans la tête. Vous savez, moi, quand j'ai écrit ce livre, presque tout de suite, dès les premières pages, il y avait une chose que je n'avais jamais pris en compte, jamais compris, qui ne m'avait jamais traversé l'esprit ou le corps, parce que c'est une histoire de corps, vraiment, dont je vais parler. D'un seul coup, je me suis rendu compte que ma mère était française, mon père était d'origine arménienne. J'ai écrit sur l'Arménie, enfin sur le génocide ou le pré-génocide. Et d'un seul coup, en commençant ce livre, je me suis rendu compte que avant d'être français, avant d'être arménien, j'étais homo. C'est-à-dire que je n'avais
c'était
jamais...
C'était une identité première.
Oui, parce que c'est mon corps qui parlait vraiment, parce que je n'ai jamais été insulté, frappé en tant que Français ou en tant qu'Arménien, mais en tant qu'homo, oui.
Jérémy Lambert, on les porte. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la fiction dans tout ça ? Est-ce que la fiction, elle vient justement uniquement faire du bien, penser les plaies, ou est-ce qu'à un moment donné, elle développe sa propre esthétique et elle prend aussi une autre dimension vis-à-vis même de ce passé douloureux ?
Je pense que c'est très variable en fait en fonction des écrivains. Je crois que de toute façon, étant donné que c'est une épreuve de vie, ce sont des épreuves de vie qui sont racontées, chaque écrivain va pouvoir trouver la façon qui est la façon dont lui va ressentir les choses. Et donc en cela, je dirais que l'esthétique, enfin, va pouvoir être très différente. Mais alors, je comprends tout à fait Daniel Arsène lorsqu'il disait tout à l'heure que ça avait vraiment été un accouchement difficile finalement cette écriture, parce que je pense qu'il y a dans l'écriture et dans l'écriture de ce type de sujet, qui sont des sujets qui viennent directement heurter, viennent directement toucher des éléments extrêmement sensibles en nous, il y a quelque chose qui est véritablement de l'ordre de l'accouchement et de l'accouchement difficile, quelque chose qui vient frapper douloureusement.
Est-ce que la littérature, elle peut justement apporter une sorte de résolution à certaines questions identitaires ? Est-ce qu'elle peut apporter plus qu'un moyen d'expression, mais aussi résoudre certaines questions identitaires ?
Alors, je pense pas que la littérature puisse résoudre des problèmes identitaires. Après, parce que la littérature peut beaucoup de choses, ça j'en suis extrêmement convaincu. Maintenant, il faut toujours qu'il y ait un élément politique qui soit politique ou sociétal qui soit derrière. Tout comme il y a eu, si on reprend un peu dans la deuxième moitié du, si on regarde un peu la deuxième moitié du XXe, l'émancipation de la communauté homosexuelle. Tout comme on va d'abord avoir une émancipation de l'identité politique, avec après une émancipation et une légitimation culturelle, je dirais, par le biais de l'art, par le biais de la littérature, de la photographie, etc. Je pense que en cela, les arts et notamment la littérature peuvent permettre en fait d'offrir un reflet, un miroir, en tout cas une identité qui n'est certainement pas arrêtée, mais comme une boule à facettes en quelque sorte, une boule à facettes dans laquelle le lecteur, le spectateur va pouvoir se retrouver et donc lui-même mieux appréhender sa propre identité.
Même s'il n'y a pas une identité unique de la littérature gay, voilà, ni des arts gays, on peut dire qu'il y a eu quand même à un moment donné une conscience, quelque chose d'assumé. Il y a une différence entre l'homosexualité qui a pu être racontée dans la littérature depuis toujours ou dans les arts et à un moment donné des homosexuels qui écrivent et qui décident de raconter et d'en faire un objet littéraire. Daniel Arsène.
Oui, mais quand vous en faites un objet littéraire, c'est que vous voulez donner voix à ceux qui n'avaient pas eu de voix. Donc c'est forcément politique aussi, hein, d'une certaine manière. Enfin, pas d'une certaine manière, c'est politique. C'est un engagement. Et si on donne voix à quelque chose qui avait été tu. Parce qu'on avait obligé à cette voix de se taire, c'est qu'il y a un engagement vraiment presque physique et donc politique. Ça j'y crois absolument. Je pense que pour moi ça a changé beaucoup de choses. Je sais ce livre là. Il y a eu un avant et un après. Enfin, je suis rentré dans une forme de combat avec moi-même, avec la société, avec le monde. Je sais que je suis beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe, et je suis beaucoup plus, je suis à la fois fier d'avoir écrit ce livre. Je suis dans le, comment dire, de plus en plus dans une sorte d'euphorie en même temps, et en même temps j'ai jamais été, je pense, autant désespéré par l'époque.
Voilà, Pauline Rousseau, vous êtes d'accord, vous partagez ce sentiment? Il y a quelque chose à la fois dans le fait de reparler de ces événements douloureux et en même temps de montrer tout ce que ça a créé de beau dans les textes.
Oui, bien sûr.
Dans les textes que vous choisissez de mettre au théâtre.
Oui, bien sûr. Les textes qu'on choisit à un moment, c'est qu'ils nous touchent. Alors, ils nous touchent par ce qu'ils racontent et puis ils nous touchent par la manière dont ils le racontent. Et effectivement, tous les textes qu'on a choisis pour le projet sont des textes qui nous plaisent, qui stylistiquement ont quelque chose au-delà de ce qu'ils racontent. Mais c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que dit Daniel Arsan. Je pense que toute parole sur ces sujets et politique, c'est-à-dire qu'on prend effectivement une place, une voix, on refuse de se taire, en fait, ce que vous dites à la fin du roman, c'est-à-dire nous ne nous tairons plus jamais. Et je suis d'accord avec vous, l'époque est, moi aussi, m'effraie un peu. Enfin, je n'aurais jamais pensé manifester pour le mariage. Je suis allée manifester pour le mariage parce qu'il y avait la manif pour tous et que j'ai dû traverser un jour et que je ne me suis jamais sentie aussi agressée par des centaines de milliers de gens qui venaient me dire à la face « Tu restes une lesbienne et on veut pas que t'aies les mêmes droits que nous. Alors reste chez toi, à la limite dans ta chambre, d'accord, mais certainement pas dans la rue. » En 2007, enfin en 2014-15, c'était... Donc cette violence-là, elle est insoutenable et en même temps, elle est effectivement porteuse d'une dynamique de combat. Je crois qu'on est beaucoup à se rejoindre et peut-être d'ailleurs dans une communauté un petit peu plus soudé qu'à une certaine époque, justement, entre lesbiennes, gays, bi, trans. Voilà, peut-être aussi à une époque où on accepte d'être plus ensemble.
Daniel Arsan, avec cette musique de Angels in America qui vient nous bercer, de même que vos mots viennent aussi nous bercer, il y a de la volonté d'introduire de la poésie dans cette histoire tragique.
Oui, en tout cas, là, je reviens un peu au problème de la voix. Je crois que peut-être dans ce roman, ma voix a trouvé, j'allais dire, ma tonalité. Enfin,
de la poésie, de l'amour, vous racontez.
Oui.
L'amour.
Oui, parce que à un moment, il n'est pas que dans la survie. Il comprend qu'il y a une part de vie totale en lui, et à partir de ce moment-là, il va pouvoir dire je t'aime. Il va pouvoir se donner à l'amitié. Il va pouvoir. Il n'y a pas qu'à l'amour. Il va aussi se donner à l'amour. Et peu à peu, il va passer de la parole intime à la parole publique. Et il fait très tout de suite la relation la maintenance, toujours ce racisme vis-à-vis des homos, et ce que lui a vécu à Buchenwald.
C'est aussi ça,
il y a un fil rouge.
C'est aussi ça, cette force, que de pouvoir auto-représenter son vécu, même si ça n'est pas un vécu Buchenwald, mais un vécu de, quand même de persécution homosexuelle, et de pouvoir en faire un objet littéraire.
Oui, c'est pour ça que j'ai vécu, je pense, tout à fait de l'intérieur et d'une manière tellement physique. Enfin, il y avait de la distance. Je ne sais pas quelle distance d'ailleurs. Et en même temps, il y avait, j'ai traîné le texte, quoi. Enfin, j'ai traîné mon sujet. Enfin, il y avait.
Écriture matérielle et spirituelle.
Je crois que j'ai écrit avec amour, enfin, je crois que, si on peut dire, enfin, il y a ça, mais je crois que c'est le seul de mes textes où je peux dire ce genre de choses.
Merci à tous les trois. Le spectacle VIEH de Pauline Rousseau a été sélectionné pour les auditions du Festival Nanterre sur Seine qui auront lieu en septembre. On vous souhaite donc bonne chance. Et le roman de Daniel Arsan, Je suis en vie et tu ne m'entends pas, est paru aux éditions Actes Sud. Il reste autour de la grande table pour le portrait. Merci aussi à Jérémy Lambert. Et ici, ça va être l'heure du live.
France Culture, la grande table d'été, Maïlys Besserie.
L'heure du live et de la musique de Léopoldine HH qui va nous interpréter Dans tes bras.
Je suis nue et je meurs. Je suis nue et je porte. Je suis nue et je donne. Qui est cette personne qui m'emporte? Dans l'ombre, je vois ton visage et tes messages subtiles, caresses et la promesse subtiles.
C'était Léopoldine HH, son nouvel album Blumen in Top sortira en septembre et est déjà disponible en téléchargement. Tour à tour libraire, éditeur et écrivain, tour à tour et parfois tout en même temps, écrivain du petit matin et éditeur du jour et grand importateur d'écrivains étrangers. Daniel Arson est resté avec nous, il est l'invité du portrait de la grande table. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été longtemps libraire, avant d'être éditeur, il y a eu toujours ce contact avec les livres. Les livres, c'est comme le fil rouge.
Oui, oui, c'est la colonne vertébrale de toute ma vie professionnelle et au-delà d'ailleurs. J'ai été libraire pendant près de presque 20 ans, 17 ans, 18 ans, oui.
Et ensuite, vous avez créé cette maison d'édition ?
Alors, j'avais pendant que j'étais libraire, j'avais créé une petite maison d'édition, oui, qui s'appelait, j'étais un peu prétentieux, les éditions de la sphère, mais mieux vaut commencer large. Mais elle n'a pas eu une très longue vie. Cela dit, on avait commencé, on n'était pas distribué, pas diffusé, rien, et on avait commencé avec un livre énorme. Publié en juin 89, on va dire un peu en juin, aujourd'hui ça serait impossible, et qui était Consuelo, suivi de la comtesse de Rudolstadt de George Sand, qui est sans doute un des plus grands livres du 19e. Voilà, assez méconnu, mais qui est un très immense livre.
Et donc ce travail finalement autour du livre, on a l'impression que vous avez creusé votre travail de lecteur de toutes les manières possibles avant d'en arriver à l'écriture. D'ailleurs, certains disent que la lecture, c'est déjà une forme d'écriture, Daniel Arson.
Oui, oui, tout à fait. Bon, j'ai toujours, c'est vrai, été passionné par la littérature. J'écrivais, mais c'était plus des brouillons, un désir d'écrire, de rendre cohérentes les choses, que vraiment, enfin, c'était des ébauches, je crois.
Est-ce qu'il y avait une forme d'inhibition littéraire en tant qu'écrivain? Est-ce que vous pourriez dire ça?
Non, je ne pense pas. Oui, j'avais des admirations, j'avais des influences, j'avais des choses comme ça. Mais je crois, en ce qui me concerne, je suis plus proche sur ce plan-là de quelqu'un comme Virginia Woolf. Quand j'avais 25 ans, il y avait une phrase de son journal qui me touchait, qui m'intriguait, qui me bousculait, et je savais pas trop pourquoi. Où elle disait, elle avait 50 ans, et elle disait aujourd'hui, mon père aurait 100 ans, et si il était toujours vivant, je n'aurais pas écrit une ligne. Et j'ai commencé vraiment à pouvoir mener à bien une histoire après la mort de mes parents.
Après la mort de vos parents, et pourtant ces origines familiales, on les retrouve oui. De beaucoup de manières différentes, même avant dans votre écriture, dans vos centres d'intérêt, puisque vous avez été un éditeur de littérature étrangère chez Phébus, et même un dénicheur d'écrivains étrangers.
Ouais, ça a été une passion, mais vous savez, j'étais très très mauvais en langue, j'ai fait très peu d'études, donc j'étais particulièrement très mauvais en langue étrangère. Je crois que j'ai retrouvé des cahiers de notes et autres où j'avais ma meilleure note, je crois, en anglais sur 20 devait être 1,5, et j'étais un petit génie en espagnol, j'avais presque 5, 6, une chose comme ça. Et j'ai abandonné assez vite les études, j'étais pas fait pour ça, j'étais collé tout le temps, je fichais rien, ce qu'on m'avait mis zéro hors sujet, pour un devoir que j'avais rendu sur Racine, et là j'ai tout envoyé paître, et j'ai de plus en plus aimé Racine, donc au moins ça m'a servi à quelque chose. Mais à 35 ans, j'ai décidé de lire un auteur que j'adorais, que j'adore toujours, qui est Virginia Woolf, et je me suis mis à l'anglais, enfin remis à l'anglais, parce que ça allait pas tellement plus loin que I Am, You Are et autres, et je me suis remis à l'anglais. Voilà. Et après, ça a été l'espagnol. Et après, mais c'était par amour de la littérature, non pas par amour des langues.
Et ça a ouvert des horizons littéraires. On va écouter l'un des auteurs que vous avez publié chez Phébus.
Hi, this is Hugo Hamilton.
Bonjour, je m'appelle Hugo Hamilton. Je suis un écrivain irlandais. Et j'ai écrit un livre dont le titre est Sang impur.
About my German-Irish childhood.
À propos de mon enfance irlando-allemande, sur la façon dont j'ai grandi avec une mère allemande et un père irlandais, et sur l'interdiction que nous avions de parler anglais à la maison. J'ai grandi à Dublin, mais je n'étais jamais sûr d'y être vraiment. J'ai grandi dans une maison en banlieue, mais ma mère allemande, me racontait des histoires à propos de l'Allemagne. Et je regardais par la fenêtre et je voyais ce pays différent de ce dont elle me parlait. Pour nous, c'était comme si on émigrait au sein même des rues de Dublin, d'un foyer allemand à un autre pays. Chez moi, on parlait allemand et irlandais. Mais dans le pays dans lequel nous vivions, tout le monde, dehors dans la rue, parlait anglais. En tant qu'enfant, ça nous a créé beaucoup de problèmes. On n'avait pas le droit de ramener cette langue à la maison, et à l'inverse, la langue que nous parlions à la maison au quotidien, l'allemand, était étrangère à tout le monde dans la rue. Donc on se sentait comme des étrangers en Irlande.
Alors, Daniel Arsan, Hugo Hamilton, c'est comme un concentré de littérature étrangère, c'est le français, le gaélique, l'anglais, l'allemand, tout mélangé dans un imaginaire totalement ouvert.
Oui, j'étais très ému de réentendre la voix de Hugo Hamilton. Ça a été J'ai été très fier, je crois, de le publier. J'ai souvent publié des auteurs que personne ne voulait ou tout le monde hésitait à les publier. Mais c'est comme ça qu'en tant que, en fils d'Arménien, j'ai publié quand même deux auteurs turcs. Elif Shafak, qui est surtout Yab Haydar, je trouve absolument génial. Oui, j'ai eu des... En même temps, ça rejoint une aventure intérieure. Enfin, j'avais l'impression de livre en livre, d'auteur en auteur, que je grandissais et que... Et c'est vrai que la lecture, pour moi, est indissociable de l'écriture. Moins maintenant, mais il y a encore quelques années, avant de me mettre à écrire... presque chaque jour, ou à peu près, je lisais 5-10 lignes d'un auteur que j'aime. Je me disais, si j'arrive à écrire 3 phrases de celui-ci, des phrases aussi fortes que celles que je suis en train de lire, ce sera déjà pas mal. Alors.
Et les centres d'intérêt du lecteur rejoignent les centres d'intérêt de l'écrivain, puisque finalement la littérature étrangère, elle a creusé ce sillon familial de la question de l'exil. Vous avez raconté que votre père avait fui le génocide arménien.
Oui, oui.
Il y a cette histoire familiale. Et vous êtes intéressé à toutes ces histoires d'exil ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que d'être sur plusieurs cultures, même si mon père me disait pas grand-chose ou sinon rien de ce qu'il avait vécu et traversé, mais malgré tout, ça rend, je pense, totalement... pour eux ou à ce qui nous entoure et au monde en règle générale, on est de plus en plus. Enfin moi, je suis de plus en plus sensible avec ce qui continue à vivre d'une époque. Qui continue à vivre dans la nôtre et ce qui s'éteint en même temps, ce qui disparaît complètement. Et pour moi, je ne sais pas, la littérature, c'est comme si la lecture, écrire, tout ça, c'est comme si il y avait une osmose entre passé, présent et avenir. Enfin, les trois formaient un bloc.
Que la littérature vient fluidifier, vient
oui.
relier.
Ce qu'on est, fait de passé, de présent et d'avenir. Donc pour moi c'est quelque chose d'extrêmement charnel. Moi quand je tombe ou je tombe encore amoureux d'un texte, c'est comme une rencontre amoureuse. Enfin il y a vraiment. Enfin, je suis étreint par la beauté d'un texte, par la force d'un texte, et ça n'en finit jamais parce qu'on n'aura jamais fini de tout découvrir et c'est très bien. Pour moi, l'horreur, ça serait qu'on me dise demain, tu n'as plus qu'un livre à lire. Pour moi, ce serait
avoir fait le tour.
Voilà.
Quelle relation vous aviez avec vos auteurs, ces auteurs étrangers que vous avez découverts, dont vous avez découvert les textes? Est-ce que c'était justement des rencontres d'imaginaire à imaginaire?
La première fois, c'était surtout la première rencontre, c'est la rencontre avec un texte, tout simplement, avec une voix. Avec quelque chose, avec un corps, avec, c'est-à-dire que dès les premières lignes, on sait que quelque chose existe en face de soi et peu à peu, cette chose existe aussi en soi et rejoint des choses parmi les plus profondes que l'on a plus ou moins cachées en soi, mais aussi. Ce qui traverse le monde. Enfin, la grande littérature, c'est celle qui donne quelques éléments pour essayer de rendre lisible le monde où l'on vit. Et les très grands livres, je pense, c'est ceux qui, d'époque en époque, de génération en génération, peuvent être toujours réinterprétés, ont toujours un écho dans dans notre monde, dans le monde qui change. Je pense comme ça, on le voit avec La Cerisée de Tchekhov. Et pour moi, la pièce de théâtre qui est la nouvelle Cerisée, et je pense qui aura un écho encore pendant des décennies et des décennies, c'est Le Pays lointain de Lagarce, qui est pour moi un des plus grands écrivains contemporains. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un que je relis, et dont son journal également, que je trouve... enfin, je ne sais pas, il me bouleverse à un point fou, quoi.
On sent que derrière cette quête, il y a aussi la recherche du travail de l'écrivain, de ce à quoi peut servir la littérature. Et on entend un autre auteur que vous avez publié en France, Joseph O'Connor, qui parle, lui, de ce qu'il estime être le rôle de l'écrivain.
Je crois que l'auteur, lui, fait ce que nous faisons tous d'une façon ou d'une autre. Nous avons des rêves, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et des gens qui ne s'intéressent pas à la musique ou qui ne lisent pas, ça doit être affreux d'être emprisonné de la sorte, emprisonné en soi-même.
Il y a presque quelque chose de l'ordre de la survie dans le fait d'écrire ou que la littérature existe, même si elle est produite par d'autres.
De la vie, tout simplement. Je pense que quand on lit un grand texte, d'un seul coup, si par hasard on a oublié qu'on était vivant, ça nous le rappelle, qu'on est des êtres vivants, des êtres humains, avec toutes ses faiblesses. Et les grands textes, ou pas forcément d'ailleurs les grands textes, mais une seule phrase peut à nouveau nous mettre en garde vis-à-vis de nous-mêmes, d'une certaine manière, nous mettre dans une sorte de chemin qui est le nôtre et de pas nous égarer. C'est des guides, enfin.
Dans ce que vous dites, on a le sentiment qu'en réalité, que la littérature soit écrite, produite par quelqu'un d'autre ou par vous-même, au fond, c'est la même chose, peu importe du moment que la littérature existe et qu'elle joue son rôle.
Ah oui, absolument. Oui, pour moi, c'est ça, parce que ça fait tout simplement partie de ma vie, c'est une grande partie de ma vie. Donc je me sens totalement évidemment vivant quand je n'écris pas ou quand je ne lis pas, mais je me sens très vivant quand j'écris, je me sens très vivant quand je lis. Je trouve que c'est, oui, puis c'est des cadeaux infinis, enfin ça n'arrête jamais, quoi.
Et ce déplacement de l'éditeur à l'écrivain, ça a été un glissement tout à fait naturel, parce que ça s'est même chevauché beaucoup.
Oui, je pense que j'étais... j'ai adoré être libraire, mais je pense que... c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je crois que j'étais vraiment fait pour être éditeur. J'adore découvrir. J'ai publié aussi des classiques oubliés ou des textes de grands écrivains et des textes oubliés. Donc j'ai travaillé autant sur le passé que sur le présent. Donc d'une certaine manière, on travaille aussi un peu pour l'avenir.
On a aussi une œuvre en tant qu'éditeur.
Pardon?
Vous estimez qu'on a une œuvre aussi en tant qu'éditeur?
Oui, mais dans les coulisses, elle doit rester dans les coulisses. On doit se retirer devant les écrivains. Voilà, je pense. Mais là aussi, on a un devoir. On a un devoir à s'effacer devant les auteurs. On a un devoir de les écouter. Alors moi, pour la littérature étrangère, c'est un peu différent parce que les livres avaient déjà été publiés.
Ils existent déjà. Oui.
Voilà, je n'ai pas eu à intervenir, mais j'ai apporté aussi des livres français aux éditions Phébus et ailleurs, et là c'était une autre relation à l'écrivain, à l'auteur, mais j'aimais beaucoup ce métier d'éditeur.
Vous avez écrit sur des sujets assez différents, mais ce qu'on peut retrouver, c'est le voyage, l'itinéraire et son versant un peu difficile, l'exil, et de l'autre côté, le drame familial. Ça, c'est des sujets qui reviennent même parfois par la fenêtre, puisque vous avez écrit ce livre Kétal sur la mort de votre chat, qui vous sert finalement à retravailler toute la question de la mort et de tous les morts, et peut-être c'est le dernier mort qui vient rappeler tous les autres.
Oui, je pense que ça a été un livre très 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 important. C'est vrai que j'ai perdu il y a 10 ans un chat que j'aimais beaucoup, qui était le chat. Et avant, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu des amis que j'adorais, du sida en particulier. Mais moi, je continuais à être immortel. Je ne pensais pas à ma mort. Moi, je n'allais pas mourir. Enfin, ça ne me traversait pas l'esprit. C'est comme si le chagrin m'empêchait d'une certaine manière de penser à ma propre mort. Et peut-être parce que j'avais dépassé 50 ans, que ben on sait qu'on est à plus de la moitié de sa vie. Là, à la mort de ce chat, j'ai pris conscience que j'étais mortel. D'un seul coup, mes morts ont eu une autre résonance en moi, et ça a changé toutes les perspectives dans ma vie. C'est-à-dire que je n'avais plus de temps à perdre, et d'où l'écriture est devenue vraiment...
essentielle, au centre ?
Plus qu'essentielle, oui, vraiment vitale, je pense.
Et la mort de ce chat, elle fait l'effet d'un révélateur qui vous fait partir en Turquie sur les traces du père.
Oui, absolument, oui.
Qui vous fait prendre tout un nombre de décisions qui étaient comme voilées.
Qui étaient en attente, qui étaient... alors elles auraient pu rester dans l'ombre. D'un seul coup... le fait de savoir que j'étais mortel, il y avait des choses à vivre, il y avait aller sur la terre où mon père avait vécu, mon père prenant de plus en plus de place dans ma tête.
Peut-être nous raconter ça, votre père que vous décrivez comme silencieux.
Oui, on a eu des problèmes. Enfin, ça a été un peu difficile avec lui parce que pendant très longtemps, quand j'étais un petit garçon, que j'avais 4-5 ans, le dimanche, pendant que ma mère préparait le café, je montais dans le lit et il me racontait son enfance. Et je savais qu'il avait vécu en Turquie, mais pour moi, la Turquie, c'était... le tapis volant, c'était, je ne sais pas, enfin, c'était le conte des mille et une nuits, enfin. Et il ne me désenchantait pas, cela. Donc, il me disait qu'il y avait une ferme, enfin, qu'il avait une propriété près d'Ankara, avec plein d'animaux. Alors, moi, j'étais émerveillé, je lui disais, il y avait des paons, il y avait des paons, enfin, bon, bref. Et c'était un Éden. Et puis, quand j'ai eu 12-13 ans, je suis tombé dans la bibliothèque de mes parents sur un livre qui était l'histoire des Arméniens.
Et du génocide.
Et voilà. Et je tombe sur l'histoire du génocide, avec des photos, évidemment. Bon, je vous laisse imaginer ce qu'elles pouvaient être, ces photos. Et d'un seul coup, je fais des recoupements. Et je me dis, c'est pas possible ce qu'il m'a raconté, c'est pas vrai, il n'y avait pas d'Éden, il n'y avait pas tout ça. Et là, ça a été très compliqué, parce que quand on est adolescent, les parents ne peuvent pas mentir par omission. Ils mentent ou ils disent la vérité, mais mentir par omission n'existe pas. On ne peut pas l'intégrer, ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'on nous ment parfois pour nous épargner. Et voilà, donc j'ai voulu poser des questions à mon père, j'étais très en colère, très agressif, je pense que je me suis comporté comme un petit con, oui, agressif, mais je pouvais pas faire tellement autrement, j'étais comme extrêmement déçu, et donc, et lui m'a opposé une sorte de silence, je pense, de silence... très douloureux, très... Il a beaucoup souffert de mon agressivité.
Et un silence qui a duré longtemps.
Qui a duré longtemps. Et puis, quand j'ai eu 22, 23 ans, j'ai perdu mon père à 30 ans. J'ai lu des livres sur les camps de concentration, sur les choses... sur tous ces thèmes, sur ce thème en particulier. Et à un moment, j'ai lu évidemment des récits où on dit que les déportés, souvent, n'ont pas pu raconter quoi que ce soit après leur déportation.
Ça, on va le retrouver beaucoup dans votre écriture, Daniel Arsan. Voilà. Cette écriture, il y a quelque chose de l'écriture du silence, puisque, y compris dans ce dernier roman, Je suis en vie et tu ne m'entends pas, le silence, les pensées intérieures apparaissent dans le texte en italique, sous forme de mots, parfois de listes de mots, parfois de phrases ou de petites expressions. On aide comme des immersions à l'intérieur du crâne, dans la tête de Klaus.
Alors ça a été presque une obligation, dans le sens où la première idée que j'avais, c'était de décrire vraiment Klaus à Buchenwald. Et puis très vite, je me suis rendu compte que là, c'était très difficile pour l'écrire. Je pense que là, c'est quand même... Même à travers la littérature, c'est quand même très difficile de se mettre dans la peau d'un déporté au moment même où il est déporté. Enfin, moi, je ne suis pas arrivé, ou peut-être que c'était devant que les froids m'en ont empêché, je ne sais pas.
Vous avez fait autre chose, c'est plutôt le camp en lui,
voilà,
qu'il en
donc,
reste.
J'ai dit, il faut trouver une autre solution, parce que je tenais vraiment à écrire donc sur les triangles roses, et je me suis dit, ben c'est le l'après Buchenwald, qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'ai écouté tout à l'heure la Pierre Selle qui racontait justement son internement et autres. Lui raconte le retour chez ses parents et je me suis dit, c'est ça, c'est l'après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est que dans la survie? Est-ce qu'on est que dans la vie? Est-ce qu'on est que... comment on fait avec sa mémoire? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la vit? Est-ce qu'elle nous tue? Est-ce qu'elle peut nous tuer totalement? Est-ce qu'elle peut nous laisser quand même un peu d'espace pour respirer? Est-ce que la mémoire est cruelle, hein, la mémoire est tueuse quand même, et on est très faible devant elle, parce qu'elle nous prend de court. Et là, dans le livre, c'est ça, la mémoire le prend de court. Mais je pense que c'est un jeune homme, quand il rentre dans un camp, il rentre à Buchenwald, il a 18 ans, 17-18 ans, c'est en 40. Il n'y a quand même pas beaucoup de chances qu'il puisse sortir vivant en 45.
Il est mille fois miraculé, hein, Klaus. On a l'impression que c'est un combattant, c'est un survivant.
Oui, parce que je pense que tout de suite, malgré la douleur d'avoir vu son amant se défenestrer, malgré la torture et tout, il y a eu une volonté quand même de vivre. Alors peut-être que ça se formulait pas dans « je veux vivre » mais dans « je ne veux pas mourir ». Et c'est vrai que un jeune homosexuel dans un camp, souvent s'en sont sortis, comme d'autres d'ailleurs, il y a eu des femmes aussi qui sont en couchant avec le capot. C'était le seul moyen. Alors évidemment, il fallait être jeune. Je pense qu'un homo de plus de 30 ans était déjà condamné quand il rentrait en 40 dans un camp.
Il y a quelque chose que vous racontez hein, dans ce récit intérieur, c'est la capacité de Klaus à supporter toutes les tortures, tous les sévices, parce qu'il s'évade. Dans sa tête, il arrive à trouver un souvenir poétique, quelque chose de beau ou un sentiment très fort auquel il peut se raccrocher.
Oui, il y a quelque chose que on ne peut pas l'abattre. Enfin, il veut vivre, quoi. Je pense que tout simplement, il veut vivre. Alors après, quand il sort, c'est vraiment. Il faut qu'il prenne conscience à un moment qu'il ne pourra jamais se débarrasser du survivre, de l'enfer, de sa mémoire. Mais à partir de ce moment-là, il comprend aussi qu'il n'y a pas que de l'enfer en lui. Il n'y a pas que du survivre. Il y a aussi du vivre.
Il n'y a pas que les traces du camp.
Voilà.
Il y a aussi ce qu'il était.
Il est dans
ce
présent.
Qu'il est toujours.
Et dans un présent, et quand il rencontre des gens qui vont devenir ses amis, il s'abandonne. C'est vraiment quelqu'un qui se donne à l'autre, enfin, qui aime les autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir, d'ailleurs, dire je t'aime, se laisser aller à l'amitié, se laisser aller à l'amour, et dire, raconter à son amant, raconter Buchenwald. Et toute la fin du livre, c'est ça. C'est passer d'une parole intime à une parole publique.
Un témoignage.
Et rien ne peut l'arrêter, là.
Vous avez cette volonté dans le livre de raconter aussi l'amour et l'amour qui revient, l'amour qui est encore possible. Il y a quelque chose de presque très romantique, presque sentimental, Daniel Arsan.
Ah, mais je suis sentimental, je crois. Les grands amitiés, les grands amours, tout ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'irremplaçable dans une vie d'homme ou de femme, enfin. Et c'est justement, comme il sait que c'est irremplaçable, je pense que Klaus, c'est pour ça aussi qu'il arrive à vivre cet amour, ces amitiés. Je ne sais pas comment j'aurais pu écrire autrement son histoire d'amour, ses histoires d'amitié. Je pense que, alors, romantique, je ne sais pas, mais il se donne, il accepte d'aimer, et il accepte d'être aimé.
Et c'est jouissif, ça, pour un auteur, que de pouvoir lui donner aussi droit à de l'amour après tout ça.
Avec ce que ça comporte aussi de douleur, puisqu'à la mort de son amant, c'est extrêmement douloureux, mais... Il va continuer quand même son combat. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un présent et dans le vivre, quoi, vraiment.
Merci Daniel Arsan. Je rappelle à nouveau que votre roman Je suis en vie et tu ne m'entends pas est paru aux éditions Actes Sud. Rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était préparée par Thibaut Bécchini, Julien Rosa, Justine Richard et Alexandra Madoyan. À la réalisation Anna El Fakir, à la technique Pierrick Monsigny. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.